la lecture de, je ne sais pas si on peut le mettre, il est déjà, voilà, quelques versets dans l'évangile de Matthieu, des versets très bien connus, et je vous invite à lire avec moi à partir donc du chapitre 16, à partir du verset 13. Et nous lisons ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » La première fois que Jésus parle de l'Église, c'est quand il dit à ses disciples, « Je bâtirai mon Église. » Mais quand il dit ça à Jésus, à quoi est-ce qu'il pense? Quand il prononce le mot « Église », est-ce qu'il pense à ce que le monde appelle une Église? Ou un bâtiment d'église un peu plus modeste? Est-ce que c'est plutôt à cela qu'il pense? Jésus ne dit pas « Je bâtirai une église ». Il dit « Je bâtirai mon église ». Alors, à quelle église est-ce qu'il pense? L'église catholique? L'église protestante? L'église évangélique, charismatique? Élim, Assemblée de Dieu, apostolique? Encore une fois, non. Jésus ne dit pas, je bâtirai votre Église. Il dit, je bâtirai mon Église. Qu'est-ce qu'il veut dire alors par mon Église? Il dit, je bâtirai mon Église. Le verbe est au futur. Donc, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore au moment quand il dit cela. L'Église de Jésus est donc quelque chose de neuf, pas le temple, pas la synagogue juive, mais l'Église que lui, il va fonder, diriger, l'Église dont lui, il sera le Seigneur. Je bâtirai l'Église. Et personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé. Sa voix Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. Pas je créerai mon Église, je bâtirai mon Église. Un travail de longue haleine donc, n'est-ce pas? 2000 ans après, Jésus est toujours occupé à bâtir son Église. Et nous, nous avons le privilège d'en faire partie et d'être même impliqués dans le bâtiment, n'est-ce pas, des co-ouvriers. La deuxième chose que Jésus dit concernant son Église est une promesse merveilleuse. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. C'est pas merveilleux ça? Les portes du séjour des morts, l'enfer, ne prévaudront pas contre l'Église. Ça ne veut pas dire que elles ne vont pas l'essayer, n'est-ce pas? La persécution de l'Église a commencé presque dès sa naissance. Il lapidait Pierre. Il y eut une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Saul ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. 170 ans après, le patriarche de l'Église qui s'appelait Tertullien écrira « Le sang des martyrs était la semence des chrétiens ». Il avait raison, n'est-ce pas? Au plus que Satan persécute les chrétiens, au plus que l'Église grandit. Notre frère dit « Amen ». Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je n'ai jamais assisté à une de vos réunions de prière, mais je m'imagine que vous ne priez pas « Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous beaucoup de persécutions ». Nous prions plutôt « Seigneur, envoie-nous beaucoup de bénédictions ». Mais l'histoire prouve que l'Église ne grandit guère par la bénédiction, tandis qu'elle grandit toujours par la persécution. Aujourd'hui, l'Église a été persécutée au fil des siècles. Elle l'est encore, pas en Belgique, mais dans beaucoup de pays du monde. Résultat, aujourd'hui, l'Église compte entre 2 et 2,5 milliards de membres, le tiers de la population de notre planète. Vraiment, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Pourtant, l'Église a commencé tout petite, n'est-ce pas? 120 personnes. En ces jours-là, le nombre des personnes réunies était environ 120. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous lisons cela, mais nous ne rendons pas compte que cela est vraiment une révolution. Les hommes et les femmes juifs qui prient ensemble, s'il vous plaît, ça ne se fait jamais au temple. Ça ne se fait jusqu'aujourd'hui, ça ne se fait pas à la synagogue. Si vous allez dans une synagogue juive, au culte, les hommes et les femmes sont séparés. Les hommes devant, les femmes derrière. Un homme et une femme juive ne prient jamais ensemble. Mais dès le début de l'Église, l'Évangile a libéré la femme. L'Évangile a restauré la femme à la position qu'elle devait occuper depuis sa création. Maintenant, les sœurs peuvent dire Alléluia, n'est-ce pas? Alors nous voyons cette égalité entre les hommes et les femmes. La deuxième chose que nous voyons dans cette chambre haute, c'est le rôle central que joue et que jouera la parole de Dieu. Pierre se leva au milieu des frères et il dit « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que dit le Saint-Esprit dans l'Écriture, annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Or, il est écrit dans le livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. » Donc, le premier acte, la première décision de l'Église a été bâtie, construite, dirigée, basée sur l'instruction de la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, le ministère le plus important de n'importe quelle Église doit être la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Toutes les autres choses que l'Église font sont bonnes, mais ne sont pas si importantes que l'annonce de la proclamation de la parole de Dieu. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu. Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et cela ne devrait pas nous étonner parce que son nom est parole de Dieu. Paul et Barnabas annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Paul annonçait aussi à Béré la parole de Dieu. À Corinthe, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il leur écrira plus tard, « Nous ne falsifions point la parole de Dieu, nous n'altérons point la parole de Dieu. » Il écrira aux Éphésiens, « L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. » Et aux Thessaloniciens, « La parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Il écrit à Timothée, « Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Mais ce n'est pas nouveau, ça. Dans l'Ancien Testament, le roi Salomon dit, « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Et dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je répète, la proclamation de la parole de Dieu, c'est la tâche et la responsabilité principale de l'Église de Christ. Un troisième élément, dès le début de l'Église, la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ se confirme par le miraculeux. Vous croyez au miracle, frères et sœurs? Amen. Il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. En sorte qu'on apportait des malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourit aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Et le miraculeux fait aussi partie du ministère de l'Église et de tous ses membres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le miraculeux, nous en avons besoin dans l'Église aujourd'hui. Ça, c'est le ministère de l'Église. Parlons maintenant de la vie de l'Église. Une étude qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour approfondir vraiment, je me limiterai aux choses, disons, de base. Nous lisons que la première Église persévérait dans quatre dimensions. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Quatre éléments de base de l'Église. La chaise sur laquelle vous êtes assise a quatre pieds, n'est-ce pas? Si on enlève un, vous ne voulez pas encore vous asseoir dessus, n'est-ce pas? La chaise a besoin de quatre pieds. Et l'Église a besoin aussi de ces quatre pieds. Et si nous enlevons un des quatre, notre Église n'est plus en équilibre. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, fraction du pain, les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je peux faire un peu de réclame pour l'étude biblique, frère. Ça va. Bon. Une église forte et stable est une église qui étudie la parole de Dieu. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça, c'est important, n'est-ce pas, frères et sœurs? Quand votre pasteur prêche ici le dimanche, hein, ne croyez rien de ce qu'il dit. Ne croyez rien de ce que moi je vous dis ce matin, sauf quand vous l'avez contrôlé pour vérifier si ce qu'on dit devant ce micro correspond pas à 99, mais à 100% à la parole de Dieu. Sinon, on le rejette. D'accord? Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. David chante, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Salomon dit, le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Et Paul écrit alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par des vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Depuis que je suis retraité, déjà depuis quelques années, que je n'ai plus de charge d'église, j'ai le privilège de voyager beaucoup. Et je vais dans beaucoup d'églises et parfois, je suis étonné des propos de certains frères et sœurs. Je veux dire, des doctrines qu'ils croient qui n'ont aucun fondement de la parole de Dieu. Des frères et sœurs qui sont tout excités par toutes sortes de manifestations, soi-disant, qui viendraient de l'Esprit, mais qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Et quand j'essaye de le faire avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de tact, leur dire, écoutez, je crois que là, vous êtes un peu à côté de la question. Comment ça? Je dis, ben, c'est pas dans la parole de Dieu ce que vous venez de dire. Ah non? Ah non? Ils ne se sont pas donné la peine de vérifier si ce qu'ils ont entendu, si ce qu'ils voient a une base biblique. Et alors, on est emporté par toutes sortes de doctrines. C'est l'œuvre du diable, ça, n'est-ce pas? Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, suivons les études bibliques fidèlement dans l'Église de Dieu. Si nous voulons une vie spirituelle puissante et profonde. Deuxième élément, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les trois autres éléments étaient déjà connus dans le judaïsme. Les Juifs étudient la parole, beaucoup plus que nous d'ailleurs. Malheureusement pour eux, la connaissance de la parole reste ici. Ça ne descend pas dans le cœur. Mais ils étudient la parole. Ils connaissent leur Bible mieux que nous. La fraction du pain, c'est connu chez les Juifs. Un Juif ne coupe jamais un pain. Il le brise toujours. Et les prières, un Juif prie au moins trois fois par jour. Mais la communion fraternelle, c'est quelque chose qu'un juif, que la religion juive ne connaît pas. Ça, c'est un nouvel élément dans le christianisme. Et communion, c'est intéressant, le mot choisi par le Saint-Esprit pour décrire la relation que Dieu veut que ses enfants aillent entre eux. En grec, c'est le mot koinonia, qui parle d'une relation très profonde et très intime. La base de ce mot, c'est le même mot qui décrit la relation exclusive entre des époux. Donc, si étroite, si proches doivent être nos relations entre nous. Pas au niveau physique, bien sûr, mais au niveau spirituel. Et la communion fraternelle n'est pas un accessoire superficiel collé à l'Église. Non, elle constitue une partie intégrale et essentielle de l'Église et de la vie de chaque membre. La communion fraternelle entre nous, chrétiens, est bien plus qu'une simple amitié, n'est-ce pas? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ça, c'est difficile, non? Ça, c'est difficile. Certaines choses ne sont pas difficiles à avoir en commun. Je veux bien vous prêter mon veston, par exemple, ou mon peigne, je veux bien vous le prêter. Les clés de la voiture, ça devient déjà plus difficile, n'est-ce pas? Mais ils avaient tout en commun, les premiers chrétiens. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus, le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. La toute première question demandée par l'homme à Dieu, c'est laquelle? Suis-je le gardien de mon frère? Vous connaissez l'histoire qui est derrière, n'est-ce pas? Suis-je le gardien de mon frère? Demande Caïn à Dieu. Et quelle est la réponse de Dieu? Oh non, tu n'es pas responsable de ton frère. Non, c'est pas ça que Dieu dit. Le sang de ton frère crie vers moi. Suis-je responsable de mon frère, de ma sœur, dans mon église? Non, c'est la responsabilité du pasteur, lui, elle. Non, c'est pas ça que dit la Bible. La Bible nous dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Nous partageons, n'est-ce pas? Nous ne devons jamais permettre qu'un chrétien souffre tout seul, qu'il souffre de la solitude. Si nous comprenons la joie et le bonheur et la nécessité de la communion fraternelle qui est de l'Église chrétienne, eh bien nous cherchons activement et consciemment à participer dans toutes les activités de l'Église, à partager notre vie, non seulement le dimanche au culte, mais aussi au long de la semaine, dans tout ce que nous faisons. Nous partageons nos joies et nos chagrins. Nous partageons nos victoires et nos défaites. Nous partageons nos problèmes et nos solutions. Nous nous aidons les uns des autres. Nous nous encourageons mutuellement, n'est-ce pas? Ceci n'est pas une invitation de se mêler importunément dans la vie de l'autrui, non. Mais c'est un plaidoyer pour un engagement réel les uns vis-à-vis des autres sur base de l'amour chrétien. La Bible dit « Exhortons-nous réciproquement ». Et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour. Et ce jour, c'est le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Jésus dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Quand ça? Eh bien, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, à un des membres de mon Église, c'est à moi, dit Jésus, que vous l'avez faite. Ça, frères et sœurs, c'est la communion fraternelle. Pratiquons-la, n'est-ce pas? J'étais dans une église en Flandre, on m'avait demandé de remplacer le pasteur qui était en vacances. Et avant le culte, l'ancien qui présidait le culte me disait comment cela allait se dérouler. Et il dit, après que vous avez prêché, j'ai quelques annonces à donner. Très très bien, frère, je prêche, je m'assieds, lui se lève, prend le micro. Il donne les annonces, réunion de prière, telle soirée, réunion de public, etc., réunion des jeunes. Et puis il dit ceci, et frères et sœurs, n'oublions pas s'il vous plaît, nous ne voulons pas dans la semaine que vous vous rendiez visite l'un à l'autre. Il vous est défendu de vous téléphoner l'un à l'autre, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des ragots. Moi j'étais le prédicateur visiteur, je n'ai rien osé dire, mais je me suis dit, cette église elle n'a que 3 pieds, hein? La chaise va balancer. Et malheureusement c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il n'y avait aucune communion fraternelle. La communion fraternelle était défendue. Elle ne doit pas être défendue, elle doit justement être encouragée. Troisièmement, il persévérait dans la fraction du pain. Cela ne parle pas seulement de la Sainte Cène. Bien sûr, ça parle de la Sainte Cène, mais ce n'est pas seulement la Sainte Cène. La Sainte Cène est quand même très important pour l'Église, parce qu'elle nous ramène chaque fois à la base de notre foi, n'est-ce pas? Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et la Sainte Cène est aussi importante parce qu'elle nous invite chaque fois à nous examiner, à nous éprouver nous-mêmes, que chacun s'éprouve soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. La Sainte Cène n'est pas seulement une tradition, n'est pas seulement un rituel. Avant de manger le pain, de boire le vin, nous confessons nos péchés, n'est-ce pas? Pas à un prêtre, pas en public, mais dans le silence de notre cœur, directement au Seigneur, confidentiellement. En mangeant le pain et en buvant le vin, nous confessons que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous assurer la vie éternelle. Et en mangeant du pain et en buvant le vin ensemble, nous confessons, nous proclamons notre unité, notre communion fraternelle dans notre Église. Et puis, il persévérait dans les prières. E.M. Bounds, qui était un pasteur méthodiste américain au 19e siècle, il a écrit 11 livres, dont 9 sur la prière. Et il dit quelque chose dans un de ses livres qui est à la fois très simple et très vrai. Il dit ceci, « Beaucoup de prières égale beaucoup de bénédictions. Peu de prières égale peu de bénédictions. Pas de prière égale pas de bénédictions. » C'est clair, n'est-ce pas? L'apôtre Jacques le dit un peu autrement. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Un pasteur anglais du 19e siècle, Charles Haddon Spurgeon, qui était pasteur du Metropolitan Tabernacle à Londres, Il montrait un jour son bâtiment d'église à des visiteurs. D'abord, il leur montrait l'auditoire principal, 5500 places, rempli tous les dimanches matins, tous les dimanches soirs. Et après leur avoir montré la grande salle, il leur disait « Maintenant, je vais vous montrer le système de chauffage. » Ça, c'est quand même étrange, n'est-ce pas? Si vous montrez des gens votre bâtiment, vous n'allez pas leur montrer le chaudière, n'est-ce pas? Spurgeon, oui. Je vais vous montrer maintenant le système de chauffage. Il les conduit le long d'un couloir, dans une salle au fond du couloir, où 400 personnes sont occupées à prier. Il dit, ça, c'est notre système de chauffage. C'est nos réunions de prière qui tiennent notre église chaude. Voilà la réclame pour la réunion de prière, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'une église ne grandit pas? Pourquoi est-ce que nous voyons si peu de miracles? Souvent, parce que nous négligeons de prier et de prier ensemble. Encore une fois, Jacques, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il se plaigne? Qu'il court à gauche et à droite? Non, qu'il prie. Et qu'il ne prie pas tout seul, parce que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu, moi-même, je suis au milieu de vous. Les disciples de Jésus n'ont pas pris longtemps pour comprendre cela. Près du début du ministère de Jésus, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Pas « enseigne-nous à prêcher ». Ils n'ont jamais demandé ça. Ils n'ont jamais demandé au Seigneur, « enseigne-nous à opérer des miracles. » Ils n'ont jamais demandé au Seigneur, « enseigne-nous à établir des églises. » Ce qu'ils ont demandé, c'est « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Auraient-ils compris quelque chose, les disciples? Oui, hein? Que si on apprend à prier, eh bien, tout devient possible. Quand l'église de Jérusalem priait, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pierre était gardé en prison. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et voici un ange du Seigneur survint, la lumière brilla dans la prison, l'ange réveilla Pierre en disant « Lève-toi promptement, les chaînes tomberont de ses mains, tomberont de ses mains. » Et la porte qui mène à la ville s'ouvrit d'elle-même devant eux. La prière. Et cette histoire, je ne vais pas prêcher là-dessus ce matin, mais cette histoire m'encourage. Parce que oui, l'Église priait, mais si vous connaissez l'histoire, elle ne priait pas 100% foi. N'est-ce pas? Sa foi n'était pas à 100%. Parce que quand Dieu exauça la prière de l'Église, et Pierre est libéré, si vous continuez à lire l'histoire, il va justement à l'Église où se tient cette réunion de prière. Ils sont à la porte. Une petite fille vient ouvrir. Enfin, elle n'ouvre pas. Elle regarde pour voir que c'est Pierre. Elle voit que c'est Pierre. Elle rentre dans la salle. Elle dit, il est libéré. Il est délivré. Et tout le monde lui dit, t'es folle. Ils ne croyaient pas que Dieu exauce leur propre prière. Et ça me donne du courage parce que je dois confesser que parfois, moi aussi, je prie pas avec 100% de foi. Et Dieu est même capable d'exaucer nos prières imparfaites. Alléluia. Quand son Église prie, Dieu révèle son plan et sa volonté. Pendant que les membres de l'Église d'Antioche servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'était le début de la mission, ça. Si l'église d'Antioche n'avait pas prié, ils n'auraient pas entendu la voix du Saint-Esprit. La mission n'aurait jamais débuté, cette Église n'existerait pas, n'est-ce pas? Quand l'Église prie, Dieu parle. Leonard Ravenhill, un évangéliste anglais qui a aussi écrit plusieurs livres sur la prière, il dit ceci. Il dit, comptez le nombre de personnes au culte le dimanche et vous verrez combien l'Église est populaire. Comptez le nombre de personnes à la réunion de prière et vous verrez combien Dieu est populaire. C'est une pensée intéressante, ça. Dieu agit quand l'Église prie. Très vite, un dernier point pour cette première étude. On rapproche aux églises évangéliques parfois de ne pas avoir des prêtres. J'ai été pasteur à Anvers pendant 33 ans. L'église a commencé toute petite, une dizaine de membres. Le premier mois, j'ai fait 2 funérailles. Donc, 20% de l'église mort le premier mois. Sans doute le choc d'avoir un nouveau pasteur. Par la grâce de Dieu, l'Église a grandi et aujourd'hui, elle compte des centaines de membres. 500 mètres plus loin, il y a une église catholique. Bâtiment moderne, splendide, grand, formidable. Et j'ai rencontré monsieur le curé. Et monsieur le curé voulait savoir quel était notre secret. Comment ça se fait que chez vous, votre bâtiment n'est pas si joli que le nôtre? Et chez vous, vous avez des centaines de personnes avec beaucoup de jeunes et d'enfants, etc. Tandis que moi, j'ai un bâtiment très joli, j'ai une orgue à pipe, j'ai des vêtements beaucoup plus beaux que les vôtres. Et moi, je prêche le dimanche à 10 vieilles dames. Comment ça se fait? Délicat, hein? Je lui ai dit, ben, monsieur le curé, nous prêchons la parole de Dieu. Ça, il n'a pas aimé. Et puis, pour essayer un peu de se justifier, ou de se rectifier, il m'a dit, oui, mais vous, l'Église évangélique, vous avez quand même, il y a quand même quelque chose qui vous manque chez vous. Il dit, ah oui, vous n'avez pas de prêtre. Moi, je suis prêtre, qui dit. Et l'Église catholique, nous avons des prêtres, et des évêques, et des cardinaux, et tout ça. Mais vous, vous n'avez pas de prêtre. Alors, je lui ai répondu, monsieur le curé, là, vous vous trompez. Je dis, parce que chez nous, à l'Église, nous avons beaucoup plus de prêtres que vous. Oh, comment ça? Je dis, parce que chez nous, tous les membres sont prêtres. Y compris les femmes. Oh là, il n'a pas aimé ça. Mais c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes, vous-même, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Par Jésus-Christ, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Et c'est ainsi que Dieu ramène le peuple de Dieu, le Nouveau Testament ramène le peuple de Dieu au plan divin original pour son peuple. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de votre Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu nous a tous donné des talents. Nous avons tous des talents. Des talents à mettre à sa disposition, à la disposition de son Église. Une église ne doit jamais ressembler à un match de foot. Vous savez, un match de foot, vous avez 22 hommes qui courent derrière une balle sur le piste en bas. Et vous avez des dizaines de milliers d'experts sur les tribunes qui tous savent mieux jouer que les 22 qui sont sur le piste. Du moins, c'est l'impression que j'ai quand j'écoute ce qu'ils crient. N'est-ce pas? Malheureusement, une église est parfois comme ça. On a 2-3 personnes qui s'occupent de tout. Et tous les autres observent et critiquent, mais ne participent pas. Arrêtons de crier nos commentaires de la tribune. Venons tous jouer sur le piste, n'est-ce pas? Un ministère, l'Église doit avoir un ministère pour chacun de ses membres. C'est important, ça, vous savez. Je bâtirai mon Église. Quel privilège d'appartenir à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie d'en faire partie. Jésus bâtit son Église parmi nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quel privilège! Alors participons, engageons-nous tous dans les ministères différents, les activités de l'Église. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Première partie, s'il vous plaît, frère.